Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de travailler et je vois pas comment des inspecteurs peuvent conclure avant cette agence sur les effets éventuels de la 5G.
Et pourtant, un rapport remis aujourd'hui au gouvernement affirme que la 5G n'est pas nocive à court terme pour la santé. Alors, qui croire ? Dossier complet dès le début de ce journal. Un an et demi après l'explosion au gaz qui avait fait 4 morts, rue Trévise, la mairie de Paris et le syndic de l'immeuble sont mis en examen. Nouvelle turbulence en vue pour Airbus. Les 5000 départs volontaires ne suffiront pas à sauver l'avionneur. C'est le PDG qui l'a écrit à ses salariés, forcément très inquiets pour leur avenir. C'est une décision extrêmement rare. L'agence du médicament saisit la justice contre les médecins prescrivant des anti-infectieux aux enfants autistes, et traitements n'ayant jamais prouvé leur efficacité. Dans ce journal également, un maire des Bouches-du-Rhône obligé d'imposer le port du masque alors qu'il n'y a aucun cas de Covid sur sa commune. Le Tour de France, victoire aujourd'hui en solitaire de l'Allemand Lennard Kamna. Primoz Roglic reste maillot jaune. Et puis le foot, match en retard ce soir de la première journée de Ligue 1. Montpellier accueille en ce moment l'Olympique Lyonnais. Et vous êtes sur place, Romain Boselli.
Et c'est la mi-temps, 1-0 pour les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui mènent depuis la 38e minute et ce pénalty signé TJ à Savagnier, mais surtout les Lyonnais sont à 10 contre 11 depuis le carton rouge reçu juste avant la mi-temps par Oussem Aouar. 1-0 pour les Montpellierains.
A tout à l'heure Romain. Le temps de demain, nuages et vent sur le nord-ouest le matin, soleil et chaleur partout ailleurs, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a terminé en légère hausse, plus 0,32% à 5067 points. Les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. Et puis l'interview écho à 22h20, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Anne Besson, la patronne de Lego en France, la marque de jouets qui promet une mue environnementale et sociale.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Elle est depuis quelques jours au cœur d'un bras de fer entre des élus de gauche et l'Élysée. La 5G, cette 4G sous hormones dont on entend parler depuis des années. Débits stratosphériques, villes connectées, véhicules autonomes, c'est pour certains la panacée, le futur. La refuser serait un retour à la lampe à huile ou au modèle Amish. Voilà comment Emmanuel Macron a balayé hier soir le moratoire demandé par des élus. Un moratoire pour étudier l'impact de la 5G sur l'environnement et la santé. Il faut dire que le temps presse. L'attribution des fréquences doit débuter à la fin du mois. Clément Le Saffre, vous êtes notre spécialiste des nouvelles technologies. Un rapport commandé cet été par le gouvernement a été remis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ?
Elle dit trois choses. La première, c'est que la 5G est une technologie dont on pourra difficilement se passer avec l'explosion du trafic Internet. Les réseaux 4G seront saturés d'ici 2 ans. Il faut donc passer à l'étape d'après. Deuxième point, la France est en retard. Elle fait partie des 5 pays sur les 26 étudiés dans le rapport qui n'ont pas encore lancé d'offres commerciales de 5G. Nos voisins sont partis et nous sommes encore sur la ligne de départ. Enfin, le rapport assure que les ondes ne présentent pas de danger pour la santé, du moins dans l'immédiat, car la 5G passera par des fréquences qu'on connaît bien et qui n'ont jamais posé de problème. En revanche, il faudra des études plus poussé, dit le rapport, pour analyser les effets des fréquences plus élevées qui seront utilisées à partir de 2024.
Clément, vous restez avec nous. On va écouter la réaction de Steven Kerschkov, délégué général de l'ONG Agir pour l'environnement, pas convaincu du tout par les conclusions de ce rapport.
Un rapport d'inspection curieux qui arrive à point nommé, qui prend le contre-pied des agences qui travaillent sur le sujet. L'Agence nationale des fréquences qui, aujourd'hui, a mené des expérimentations sur la 5G qui démontre une augmentation de l'exposition liée à l'arrivée de la 5G. Quant aux impacts sanitaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de travailler et je ne vois pas comment des inspecteurs peuvent conclure avant cette agence sur les effets éventuels de la 5G.
Alors, qui croire au final, Clément Le Saffre ?
Eh bien, dans ce dossier, c'est un peu compliqué. Ce que dit Stéphane Kerschkov est juste. Il y a bien des études sanitaires spécifiques en cours en France en ce moment. Les premières conclusions sont attendues dans les prochains mois. Elles viendront en fait compléter le rapport publié ce matin qui lui est fait par les inspections, les administrations. Et ce rapport reste quand même solide hein, dans le sens où il s'appuie sur des expériences en conditions réelles à l'étranger dans des pays où la 5G est déjà une réalité. Par exemple, en Corée du Sud, qui est le pays le plus avancé dans ce domaine, dans le centre-ville de Séoul, l'exposition aux ondes est équivalente à 2% de la norme acceptable. Pour le gouvernement, c'est donc l'ultime feu vert. À Bercy, on le martèle. Hors de question de faire un moratoire, il n'y a pas de contre-indication majeure à l'heure actuelle et on a déjà pris beaucoup trop de retard.
Éclairage signé Clément Le Saffre pour Europe 1. C'est une explosion au gaz qui avait fait la une de tous les journaux le 12 janvier 2019. 4 morts et plus de 60 blessés rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris. Et bien plus d'un an et demi après, la mairie de Paris et le syndic de l'immeuble viennent d'être mis en examen. Qu'est-ce qu'il aurait reproché exactement, Justin Morin ?
Alors, ils sont poursuivis notamment pour homicide et blessures involontaires. Tout est écrit dans un rapport d'experts rendu il y a 5 mois sur lequel s'appuie cette décision. Au cœur de l'enquête, il y a l'affaissement du trottoir qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz. La cause, une fuite d'eau issue de l'immeuble rue de Trévise qui avait été signalée des années auparavant. Le syndic ne l'a jamais réparé, il est accusé de négligence. La mairie, elle, est mise en cause pour un défaut de vigilance. D'après le rapport, l'explosion aurait pu être évitée si les services de la voirie avaient cherché la cause de cet affaissement de trottoir. Une expertise que conteste la ville de Paris par la voix de son avocate, maître Sabrina Goldman.
Nous considérons n'avoir commis aucune faute. Maintenant, nous allons enfin pouvoir prendre part aux investigations qui vont continuer d'être menées et demander une contre-expertise et continuer à essayer de comprendre.
Donc cela va prendre encore beaucoup de temps, des années avant qu'il y ait un procès. Ce que regrettent les victimes, maître Elsa Crozati en défend une vingtaine.
Cette mise en examen, c'est une très bonne chose. Ça fait 2 ans maintenant, bientôt, que les victimes attendent. Elles ont besoin d'être reconnues comme victimes et de percevoir une indemnisation. Mais au final, c'est un début de commencement d'avancée. Tout le dossier est quand même encore très lourd et très loin d'être fini.
Aujourd'hui, les victimes touchent déjà des indemnisations prévisionnelles, mais qui ne sont pas à la hauteur du préjudice, selon leur avocate. Elles attendent de la mairie qu'elle prenne ses responsabilités.
Justin Morin, 12 personnes en garde à vue après le très probable règlement de compte qui a fait 2 morts la nuit dernière à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Alertés par des riverains, les policiers ont découvert dans une cave les corps de 2 jeunes hommes de 17 et 25 ans tués par balle. La reprise du trafic aérien pendant l'été n'a pas été à la hauteur des attentes. Dans un email envoyé à ses salariés, le PDG d'Airbus prépare les esprits à un plan social encore plus grave qu'annoncé jusqu'ici. Et Guillaume Faury affirme même que les 5000 départs volontaires prévus en France pourraient ne pas suffire à sauver l'entreprise. Benjamin Peter, vous êtes notre correspondant à Toulouse. Vous avez rencontré des salariés d'Airbus abasourdis et qui se posent, on les comprend, beaucoup de questions sur leur avenir.
Oui, et ce mail de Guillaume Faury adressé à tous les salariés n'a pas vraiment permis d'y répondre. Pire, il a ravivé les inquiétudes. Dans ce courrier, le PDG explique que la crise sera plus profonde et plus longue que prévu. Et dans le dernier paragraphe, il ajoute qu'il est peu probable que les départs volontaires suffiront. Incompréhensible pour Lancelot qui travaille sur la 320.
On nous parle de licenciement, de baisse de trafic, crise plus profonde qu'espérée. Nous, sur le 320, ce qu'on voit surtout, c'est la charge de travail, elle est là, on travaille, on n'a pas de jours chômés dans la semaine. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. Voilà, on parle de licenciement, nous, on ne comprend pas. Et nous, on aimerait bien savoir, c'est bah, demain, qu'est-ce qui va se passer demain ?
3000 salariés ont déjà indiqué qu'ils réfléchissaient à quitter l'entreprise volontairement. Alors pour Florent Velletti, de la CFTC, cette annonce du PDG est prématurée.
C'est vrai que c'est assez violent. Les salariés ont pris un coup de massue derrière la tête. Nous, notre objectif, ça reste de faire 0 départ contraint. Et là, clairement, notre patron nous dit que ça ne suffira pas. Nous, dans l'esprit de négociation, c'est qu'on doit chercher des solutions tous ensemble. Et là, on a l'impression que, ben, bon, fatalement, on ne va pas avoir le choix, donc il va falloir le faire. Ça, on ne peut pas s'en contenter de cette position.
D'autant que les syndicats attendent également beaucoup de l'accord sur l'activité partielle de longue durée, le fameux dispositif du gouvernement qui devrait permettre de sauver 1300 à 1500 emplois.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
C'est une décision extrêmement rare. L'agence du médicament a décidé de saisir la justice. L'ANSM s'inquiète de la prescription par certains médecins d'anti-infectieux comme les antibiotiques à des enfants autistes. Des traitements qui n'ont jamais prouvé leur efficacité sur l'autisme et peuvent même se révéler dangereux, Ève Roger.
Oui, vous l'avez dit, ce sont des antibiotiques, des anti-infectieux, des antiparasitaires ou encore des médicaments censés éliminer du corps des métaux lourds comme le plomb, des traitements prescrits par des médecins des enfants autistes totalement hors des clous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Pire, vous l'avez dit, ils n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité contre l'autisme. Et pour Philippe Vella, directeur du médicament en neurologie à l'Agence du médicament, il est urgent d'alerter les parents.
Le message qu'on veut porter, c'est un message d'alerte aux familles. Ces familles qui peuvent être dans une situation de désarroi face à une pathologie et à leurs enfants pour lesquels on n'a pas de thérapeutique efficace, curative. Et donc, notre message, c'est de déconseiller formellement ces utilisations pour ces médicaments qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité, encore une fois, et qui exposent ces enfants à des risques dans le cadre de ces pratiques individuelles.
Et donc, ces risques, ce sont des troubles digestifs, cardiovasculaires, des symptômes cutanés, mais aussi, et c'est plus grave, ces enfants peuvent développer développer ce qu'on appelle une antibiorésistance, c'est-à-dire que s'ils sont atteints d'une infection, les antibiotiques pourraient ne plus être efficaces.
Ève Roger, Valéry Giscard d'Estaing va mieux, hospitalisé depuis hier à Paris. L'ancien président de la République, 94 ans, souffre d'une légère infection pulmonaire, mais pas du coronavirus selon son cabinet. On vous en parlait hier dans ce journal, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer l'épidémie, notamment l'extension du port du masque obligatoire dans les 27 communes les plus touchées. Or, parmi ces communes, il y a celle de Mimet, 4500 habitants et aucun cas de Covid, d'où l'incompréhension du maire Georges Christiani.
Il y a zéro cas dans les écoles, il y a zéro cas à la maternelle, zéro cas à la crèche. Dans les l'EHPAD que nous avons, il n'y a pas de cas. J'ai toutes les attestations. C'est pas normal que je me retrouve sur une liste où je serais censé avoir 100 cas pour 100 000 habitants. Mais dans ma commune, il y a 4700 habitants. Ça veut donc dire qu'il y a au maximum 5 cas de Covid. Mais on marche sur la tête de ne pas avertir le maire. On marche sur la tête parce que là, on angoisse 4700 habitants alors qu'il y a peut-être 5 cas de Covid positifs que je ne connais pas. Ça met la population en émoi, ça. Le directeur général de la ARS a fauté. Il a fait une faute. Il grave.
Le maire de Mimet, joint pour Europe 1 par Gabriel Bourgeois. Les chiffres ce soir de l'épidémie, plus de 7800 nouveaux cas de Covid recensés ces dernières 24 heures. La hausse des indicateurs hospitaliers s'accélère. 117 personnes ont été admises en réanimation depuis hier. Et parmi les nouveaux foyers de contamination, la faculté de médecine de Montpellier, une soixantaine d'étudiants a été testée positif après une soirée étudiante.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Donald Trump évoque l'avènement d'un nouveau Moyen-Orient après la signature ce soir d'un accord historique entre d'un côté Israël et de l'autre les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. C'est un tournant de l'histoire. Ces accords peuvent mettre fin au conflit israélo-arabe, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Réponse de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il n'y aura aucune paix sans la fin de l'occupation israélienne. Il est devenu malgré lui le symbole pour la liberté de la presse en Algérie. Le journaliste Khaled Drareni, ancien correspondant d'Europe 1, a été condamné en appel aujourd'hui à 2 ans de prison ferme. Il est accusé par le pouvoir d'atteinte à l'unité nationale lors de sa couverture du Irak, ce mouvement populaire qui avait contribué à la destitution du président Bouteflika l'année passée. Un rassemblement de soutien a eu lieu ce soir à Paris à l'initiative de l'association Reporters sans frontières. On passe au Tour de France, 16e étape aujourd'hui entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. En Isère, pas de bouleversement en tête du classement. Primoz Roglic conserve le maillot jaune. En revanche, surprise sur la ligne d'arrivée, c'est un jeune Allemand qui a remporté l'étape, Axel May.
À 24 ans, c'est sa première victoire sur le Tour de France et seulement son deuxième succès chez les professionnels. Lennart Kemna, coéquipier de la star Peter Sagan, a faussé compagnie à ses derniers camarades d'échappée dans la principale difficulté de la journée, à 20 km de l'arrivée, et a franchi en solitaire la ligne devant un public clairsemé. Le groupe maillot jaune, qui avait accordé un bon de sortie à l'échappée du jour, est arrivé avec près de 17 minutes de retard. Et encore 10 minutes plus tard, le groupe maillot vert, dans lequel figurait, devinez qui, Egan Bernal. Le Colombien, vainqueur sortant de la grande boucle, qui avait déjà abandonné ce week-end toute idée de bien figurer au général, et ce soir, 16e. A noter que Benoît Cosnefroy conserve in extremis son maillot à poids, à égalité de points avec Pierre Roland, tandis que le jeune David Gaudu a abandonné. Villard-de-Lans, Axel May, Europe 1.
Merci beaucoup Axel May qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés de Marguerite Lefebvre. Et demain, étape Rennes pour les grimpeurs, 170 km entre Grenoble et Méribel en Savoie, 2 cols hors catégorie au programme. On termine avec le foot et ce match en retard de la première journée de Ligue 1, Montpellier-Lyon. Romain Vezeli, vous êtes en tribune et la deuxième période a débuté.
Effectivement, 1-0 pour les Montpellierains dans ce match en retard de la première journée de Ligue 1. On joue la 55e minute et pour le moment, l'unique but du match est signé TJ Savagnier à la 38e sur pénalty. Le milieu de terrain de Montpellier qui s'est offert une Panenka plein axe pour tromper Anthony Lopez. C'est encore plus compliqué pour les Lyonnais depuis le carton rouge adressé à Oussem Aouar juste avant la mi-temps pour une grosse semelle sur Arnaud Souquet juste avant la pause. Carton rouge direct pour le joueur lyonnais après assistance vidéo. La seconde période qui est partie sur un rythme un peu moins élevé. Montpellier gère cet avantage pour le moment. 1-0 pour les Montpelliérains. Ça va être dur pour les Lyonnais. Il va falloir aller chercher des valeurs pour aller chercher au moins le match nul dans cette rencontre en infériorité numérique. 1-0. 55e minute de jeu ici à la Mosson.
Merci Romain Bozelli. On vous retrouve à la fin de cette édition. On passe à la météo. Anissa Dadi, demain, il y aura du vent sur le nord-ouest.
Oui, un tout petit peu plus de vent, effectivement, Julien. Et ça concerne le bord de Manche, demain, où là, le vent de nord-est se lève et souffle jusqu'à 80 km/h. Alors le ciel, vous allez le constater, est un petit peu plus nuageux demain, mais ça reste quand même dans l'ensemble une assez belle journée avec en bord de Manche et autour du golfe du Lion des grisailles matinales. Ce sont des entrées maritimes, vous connaissez hein, si vous habitez dans le secteur. Et après la dissipation de ces grisailles, eh bien là c'est le soleil qui va de nouveau prendre le dessus. Dans l'après-midi, en Corse, sur les Alpes, sur le Massif central et dans le Grand Est, hein, du côté des Vosges, eh bien là les averses pourront prendre un caractère orageux, ça sera un petit peu plus agité dans ces secteurs demain, partout ailleurs. Le ciel est un petit peu plus couvert, mais la journée sera encore très belle. Les températures restent élevées demain pour la saison, avec 11 à 22 degrés de Charleville-Mézières à Nice. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 22 à Dunkerque, 25 à Brest, 26 pour Caen, 28 à Lorient, 30 degrés pour Rennes et Toulon, 31 à Marseille, 33 à Limoges. Et la maximale est prévue pour Mont-de-Marsan demain avec 35 degrés.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse suivies de l'interview Echo. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Anne Besson, la patronne de Lego France. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, on retourne très rapidement au stade de la Mosson où un but vient d'être inscrit entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais, Romain Boselli.
Effectivement, 2-0 désormais pour les Montpelliérains dans cette partie avec le doublé de TJ Savanier qui a enchaîné le contrôle, la frappe du gauche pour venir tromper Anthony Lopez. Ça fait 2-0 pour les Montpelliérains dans cette partie face à une équipe lyonnaise, on le rappelle, réduite à 10 depuis le carton rouge d'Oussem Aouar juste avant la mi-temps.
Merci beaucoup Romain Boselli et à tout à l'heure. Il est l'heure à 22h18 de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street poursuit sa hausse sur fond d'opérations financières.
Oui, ce sont surtout les valeurs de technologie hein, qui maintiennent le cap à la hausse. Le Nasdaq grimpe d'1,21%, 11 190 points ce soir. Le Dow Jones est plus stable, 27 996. Il y a Fiat Chrysler qui grimpe de 9%, 10,88 $ après la révision des termes de l'alliance avec PSA pour former le quatrième groupe automobile au monde, nommé Stellantis. Fiat Chrysler, donc en hausse de 9%, c'est la forte hausse du jour. Et puis, c'était la présentation de rentrée des nouveaux produits Apple ce mardi. Rien sur l'iPhone 12, qui fera sans doute l'objet d'annonces plus précises en octobre. Vous voyez, ça a un petit peu déçu la bourse. Hein. Ça a baissé, le titre Apple a un petit peu fléchi en séance. Il y a quand même eu beaucoup d'annonces hein, sur l'Apple Watch en particulier. L'Apple Watch série 6, avec toujours plus de fonctions dédiées à la santé. Et puis des nouvelles aussi de l'iPad Air, quatrième génération avec un design proche de l'iPad Pro. On a Apple donc qui termine pratiquement stable ce soir, $115.50. Sur les autres places, sur les autres valeurs de technologie, on a Facebook plus 2,2%, on a Netflix qui monte de 4%, donc il y a quand même des hausses assez nettes. Et puis Tesla encore plus 7%. $451, ça avait bondi hier déjà. Amazon aussi plus 1,7%, Microsoft plus 1,6%. Le pétrole aussi remonte sur les $40 le Brent, on est à $38.27 le WTI, plus 2,5%. L'euro est toujours ferme, l'euro à 1,1850 face au dollar.
La bourse de Paris est aussi restée dans le vert au-dessus des 5000 points.
Modestement, mais oui, du vert, plus 0,32%, 0,32 à 5068 points sur le CAC 40, toujours au-dessus des 5000 points. Les valeurs en vue étaient Fnac, Darty aujourd'hui, plus 4%. Après les déclarations optimistes de la direction, le chiffre d'affaires 2020 devrait être proche de celui de l'année passée, malgré la crise, avec l'aide des ventes en ligne en particulier. Et puis le secteur pétrolier, puisque ça remonte sur le baril, eh bien on remonte sur les valeurs pétrolières. Vallourec plus 7%, CGG plus 4%, Technip plus 3%. Total plus 0,9%. À noter, on en parlait tout à l'heure, Peugeot qui reprend aussi de la hauteur. Avec son mariage donc qui est en cours, hein, qui est en cours de négociation avec Fiat Chrysler. Peugeot, plus 2%, 16,54 € ce soir.
Exception du jour, le secteur bancaire qui reste encore en retrait.
Encore, oui, déception hein, du côté des valeurs financières avec de nouveaux dégagements en raison des incertitudes. Des incertitudes économiques hein, liées à la faible visibilité de la situation actuelle. On a Natixis, moins 2,5%, BNP, moins 2%, Crédit Agricole, moins 1,5% avec la Société Générale. Sur les autres places financières, ça monte quand même. Le DAX, plus 0,2% à Francfort, Madrid, plus 1,2%, Milan, plus 0,8% et le CAC 40 en hausse de 0,32%, 5068 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Anne Besson.
Bonsoir Anne Besson. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la patronne en France de Lego. Alors, on connaît tous cette célèbre marque de jeux. Lego va investir environ 400 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour accélérer sa mue environnementale et sociale. C'est parce que les consommateurs vous le demandent que vous êtes obligé de le faire.
Alors, on sait que c'est important pour les consommateurs, mais avant tout, c'était vraiment un investissement que la marque voulait faire, puisque le projet a démarré dès 2015.
Mais est-ce que vous l'auriez fait dans la même ampleur s'il n'y avait pas, en ce moment, toutes ces polémiques sur l'utilisation du plastique ou ce genre de matière ?
Oui, complètement. Nous avons des promesses en interne, ce que nous disons sur la marque Lego, que nous avons des promesses. Une des promesses qui a été créée à l'origine de la naissance de la société Lego, c'était une promesse envers la planète. Donc si je reviens, la marque a été créée en 1932. Ces promesses ont été créées avant les années 2000. Donc bien entendu, ça fait partie de l'ADN de la marque Lego.
Alors soyons très concrets sur vos engagements. La fin des sacs plastiques à usage unique utilisés dans les boîtes Lego pour emballer les briques, je trouve que c'est l'engagement le plus massif et le plus parlant, puisque quand on a acheté récemment des Lego pour ses enfants, on s'est tous fait cette réflexion en se disant « mais c'est pas possible tout ce plastique ». Donc là, quand est-ce que ça s'arrête ?
Alors, ça va s'arrêter en 2022. C'est un an. En fait, le groupe Lego a pris un engagement sur 100% de ses emballages. Donc, 90% des emballages de Lego étaient déjà recyclables. Il manquait les petits sachets à utilisation unique qui n'étaient pas encore recyclables. Et là, c'est un investissement qui a été fait pour remplacer 100% des emballages d'ici à 2025.
Alors, vous dites que voilà, tous les emballages durables, c'est 2025. Mais pourquoi on ne peut pas aller plus vite ? C'est juste parce qu'il n'y a pas de solution alternative ?
C'est extrêmement compliqué. Alors, il y a de travailler à la fois donc, sur le matériau qui peut avoir la qualité, la solidité, mais également, ce sont les systèmes de production et les machines qui doivent être changées. Donc, l'investissement est très lourd et très compliqué et prend aussi ce laps de temps.
Par ailleurs, aujourd'hui, la plupart hein, quand même de vos produits sont encore bien évidemment faits en plastique, ces fameuses briques Lego. Est-ce que là, on pourrait imaginer un plastique qui serait complètement durable ?
Alors effectivement, c'est un excellent point. Je vais un peu remonter dans l'histoire de Lego, puisqu'en 2015, le groupe Lego a décidé de créer un centre de recherche et développement pour des matériaux qui soient durables, que ce soit emballage ou notre petite brique. En 2018, le groupe a lancé ses premières briques ou éléments de construction qui soient biosourcés, des éléments à partir de canne à sucre. Et d'ici à 2030, toutes les briques seront biosourcées.
Est-ce que du coup, les prix vont monter ?
Ah non, pas du tout.
C'est-à-dire que comment vous allez faire pour avoir ce genre de produit au même prix ?
C'est un investissement du groupe. Donc le groupe a investi déjà 150 millions dans cette organisation en 2015, vient rajouter 400 millions effectivement maintenant jusqu'à pour les 3 prochaines années à venir. À recruter 150 personnes, c'est vraiment la politique de groupe de s'engager et de dépenser pour avoir des produits plus durables, plus éco-responsables.
Anne Besson, je rappelle que vous êtes la patronne en France de Lego. Est-ce que le consommateur français est différent ? Pour faire simple, est-ce qu'il vous en demande plus ?
Alors, il y a une vraie tendance mondiale qui se préoccupe de la planète. Les gens veulent que toutes les marques puissent davantage s'engager pour aider la planète. Après, le consommateur français, effectivement, est davantage engagé encore. On a vu un mouvement s'accélérer ces dernières années. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir communiquer, de pouvoir s'engager et communiquer sur tous les efforts que nous faisons.
Plus largement, cette fois-ci, on regarde comment ça va pour Lego en ce moment en France. J'imagine que pendant le confinement, peut-être qu'on a eu envie de faire plaisir à nos enfants pour les occuper, donc peut-être qu'on a pas mal acheté. Comment ça se passe chez Lego ?
Alors chez Lego, au niveau mondial, de la même façon, les ventes se passent, on va dire, très très bien et nous sommes extrêmement fiers des résultats que nous venons de publier pour le premier semestre. Pour la France, nous allons retrouver aussi une tendance positive. C'est vrai que Lego a pu s'ouvrir davantage en France pendant la période de confinement puisque beaucoup de magasins ont été fermés. Néanmoins, les ventes en ligne ont pu prendre le relais et aujourd'hui, on voit une vraie accélération de la consommation de Lego, le plaisir de jouer en famille avec Lego, qui fait que Lego est en croissance en cumul à date.
Ah oui, c'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, à la même période, vous avez vendu plus de Lego en 2020 qu'en 2019, c'est comme
exactement.
Ça qu'il faut le comprendre ?
Exactement, exactement. Et nous sommes très fiers de ces résultats. Cela veut dire que beaucoup de familles et beaucoup d'enfants sont heureux de jouer et de construire avec Lego.
Qu'est-ce qui a été acheté en particulier ?
Alors, ce qui marche bien, donc nous avons des nouveautés comme Lego Super Mario que nous avons lancé au 1er août qui marche extrêmement bien. Ce qui va très très bien marcher aussi, c'est notre gamme Harry Potter ou nos produits Star Wars, mais également, je dirais, tous les produits un peu plus basiques, les fondamentaux, comme des briques classiques ou le Theme City qui va très très bien marcher.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. Anne Besson, la patronne en France de Lego, était notre invitée ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. 5G, Macron veut clore le débat, titre Les Échos. On vous en a parlé dans le journal, le président de la République a balayé les demandes de moratoire de certains élus qui s'inquiètent notamment des effets de cette nouvelle technologie sur notre santé. Le gouvernement estime avoir donné des gages, écrivent Les Échos. Peut-être, mais il est tout de même regrettable d'écarter ces interrogations d'un revers de main, comme l'a fait hier Emmanuel Macron en ironisant sur le modèle Amish. Et c'est ce qu'ajoute Guillaume Goubert dans La Croix. Xavier Bertrand avance ses pions, titre de son côté L'Opinion. Le quotidien libéral affirme que le président des Hauts-de-France va multiplier les interviews dans les prochains jours et pour cause. Au sein des Républicains, Xavier Bertrand enregistre de plus en plus de soutien. Damien Abad, Rachida Dati ou encore Christian Jacob, tous le poussent à être candidat de la droite en 2022. Allez, comme promis, on termine avec du foot et on fait un dernier crochet au stade de la Mosson où Montpellier domine assez nettement l'Olympique Lyonnais, Romain Boselli.
Elle fort logiquement, en tout cas 2-0 pour les Montpelliérains. On joue la 71e minute dans cette partie, les Montpelliérains qui mènent 2-0 et qui jouent à 11 contre 10 depuis le carton rouge adressé, on le rappelle, à Oussem Aouar juste avant la mi-temps, doublé de TJ Savanier. D'abord une Panenka magnifique sur penalty, il est en pleine confiance sur le milieu de terrain Montpelliérain. Et ensuite le doublé, un enchaînement frappe du gauche parfait pour Savanier. 2-0 pour les Montpelliérains, à l'instant peut-être un coup franc dangereux pour les Lyonnais, pour Memphis Depay, mais les Lyonnais sont derrière, ça va être bien capté par le gardien Montpelliérain. 2-0 toujours pour les Montpelliérains.
Merci beaucoup Romain Boselli, en direct de Montpellier pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Bon.
Et vous ?
Eh bien écoutez,
surtout,
comme d'habitude.
C'est
comme
vous
d'habitude,
qui tenez la baraque jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et je suis en pleine forme. En pleine forme.
39-21 pour vous appeler, pour venir se confier à votre micro.
Exactement, et on se retrouve tout à l'heure pour le flash à 23h, Julien.
Avec plaisir.
À tout à l'heure.